suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle de fête.
Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, mesdames, cette journée c'est la nôtre. Mon chéri me dit, une bière à la main. Me laisse le ménage, tu le feras demain. Enfin, une journée où les femmes pissent debout. Mais comme j'ai pas l'habitude, alors j'en mets partout. Et comme de toute façon, c'est moi qui nettoie, finalement je m'assois. Vite, 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 ça passe très vite. Vite, 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 un peu comme un coït. Vite, 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 il faut que j'en profite. Aujourd'hui, youpi, c'est la journée de la femme. J'ai eu pour l'occasion un très joli cadeau de mon petit chéri qui en fait toujours trop. Pour pas le réveiller pendant sa sieste l'après-midi, un bel aspirateur qui ne fait pas de bruit. Du coup je lui dis, j'ai aussi des cadeaux pour toi, un guide du savoir-vivre et un pot de Viagra. Et pour la journée du macho qui dommage n'existe pas, tiens, une ventouse à chiottes et des gants MAPA. Vite, 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 ça passe très vite. Vite, 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 un peu comme un coït. Vite, 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 il faut que j'en profite. Aujourd'hui, youpi, c'est la journée de la femme. Car la femme est une artiste au pouvoir infini. Comme dit le féministe Rocco Siffredi, elle sait faire 10 choses à la fois. Et pourtant, elle n'a que 2 bras. Alors c'est peut-être un peu court, une seule journée pour tout ce qu'on fait toute l'année. Et ouais, vite, 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 ça passe très vite. Vite, 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 un peu comme un coït. Vite, 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 il faut que j'en profite. Aujourd'hui, youpi, c'est la journée de la femme. Vite, 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 ça passe très vite. Vite, 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 un peu comme un coït. Vite, 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 il faut que j'en profite. Aujourd'hui, youpi, c'est la journée de la femme. Vite, 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 ça passe très vite. Vite, 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 un peu comme un coït. Vite, 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 il faut que j'en profite. Aujourd'hui, youpi. Ah bah ça y est, bah c'est fini. Bah c'est plus la journée de la femme.
Youpi !
C'était Marie Renaud sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour ce deuxième épisode de Tous Essentiels qui sera consacré aujourd'hui à...
aux femmes.
Oh, parce que les femmes aussi veulent un revenu de base.
Tiens, mais donc. Écoute, oui. Oui, elles se sont dit, tiens, c'est un droit humain. Ah mais au fait, nous sommes humaines. Ah bah peut-être que nous pourrions en profiter aussi.
Et du coup, Virginie, tu n'es pas venue toute seule.
Non, nous avons invité aujourd'hui Corinne DeWitt, qui est présidente de l'association Mères pour la Paix, et alors qui nous a été envoyée par Françoise Carrère, qui est présidente de la Maison des Femmes de Lille, et qui pouvait malheureusement pas se déplacer aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup, Corinne, d'être venue.
Merci Virginie de m'accueillir.
Je vais te laisser te présenter un peu et répondre à cette fameuse question, parce qu'on est quand même là pour explorer l'idée du revenu de base. Donc je rappelle, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, qu'il s'agit de donner à chacun et chacune en l'occurrence, surtout aujourd'hui, suffisamment pour vivre. De la naissance à la mort, ça tombe sur le compte, il n'y a rien à faire tous les mois. Et voilà, jusqu'à notre mort, et quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que c'est inconditionnel, on travaille pas, on l'a, on est en couple, on n'est pas en couple, on l'a, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, on l'a. Et donc j'aimerais bien que tu répondes aussi à cette question de façon un peu plus personnelle avant qu'on parle des autres, de qu'est-ce que tu feras avec ton revenu de base ou qu'est-ce que tu aurais fait.
Alors pour moi c'est plutôt qu'est-ce que tu aurais fait, parce que évidemment j'ai un petit peu de bouteille et ma vie est plus derrière moi que devant, bien qu'il me reste j'espère beaucoup de bonnes années à vivre. Je suis effectivement présidente du comité Nord des Mères pour la Paix. Les Mères pour la Paix sont une fédération qui comporte 7 comités à travers la France, et je préside le comité Nord, la fédération des Mères pour la Paix, puisqu'elle a été créée à Villeneuve-d'Ascq, elle a toujours son siège à Villeneuve-d'Ascq. D'accord. Et je n'en suis que vice-présidente, c'est Dominique Dupuis qui en est présidente. Alors, les Mères pour la Paix en deux mots, c'est une association qui s'occupe des femmes et des enfants dans les zones de conflit, pendant les conflits et après les conflits, de manière à permettre aux femmes de rebondir après des moments très très difficiles, parce que les femmes sont évidemment les premières victimes avec les enfants des conflits, contrairement à ce qu'on peut croire, et qu'elles ont beaucoup de mal à reprendre une vie entre guillemets normal et en tout cas économiquement possible après le conflit. Donc c'est là-dessus que nous œuvrons depuis maintenant 27 ans.
Bravo.
Alors, le revenu de base. Le revenu de base, en ce qui me concerne, j'ai eu une vie extraordinaire que j'ai pu gérer à peu près comme je le souhaitais, en faisant un métier que j'adore et voilà, et qui m'a permis de vivre bon an, mal an, parce qu'on a longtemps vécu avec un SMIG, en élevant nos enfants, enfin voilà, dans des complications difficiles. Mais je pense que le moment où, dans ma vie, ce revenu de base aurait été justement le plus essentiel, c'est quand j'ai eu une cassure de vie, j'ai divorcé. Et là, je me suis retrouvée, puisque je travaillais avec mon mari, je me suis retrouvée sans rien, sans aucun revenu. Et il a fallu rebondir, il a fallu renaître de ses cendres. Et là, ça a été vraiment très, très difficile. Je pense qu'on note aujourd'hui que 40% des Français ont vécu un moment de pauvreté. Mmh. Effectivement, j'ai vécu un moment de grande pauvreté, même si finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Si je ne me suis pas enfoncée, si j'ai réussi à rebondir, tant mieux pour moi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'avais un métier qui me le permettait. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ce moment de la vie-là qui aurait été le plus important. Et puis, on est toujours inquiet aussi pour l'avenir parce que j'ai bientôt 70 ans. Je me dis que si je vis encore une vingtaine d'années, ce qui sera à peu près l'espérance de vie de ma génération, et que mon mari devait partir avant moi, comment ça se passerait financièrement? On parle des réversions de retraite qui n'existent plus. Moi, j'ai une toute petite retraite. Voilà. Donc, cette peur de l'avenir possible ne serait plus là. Alors, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas pu mettre d'argent de côté, n'ont pas pu prévoir. Moi, j'ai énormément prévu parce que j'avais la hantise de cet avenir et de cette vieillesse qui pouvait poser problème. Je pense que tous ces gens qui se posent ces questions-là ne se les poseraient plus. Et puis, je pense aussi, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce qu'on y pense peu. Je pense beaucoup aux personnes âgées, notamment aux femmes qui ont souvent travaillé toute leur vie aux côtés de leur mari, en faisant leur comptabilité, en faisant, alors quelquefois salariées, mais pas toujours, ou quand elles l'ont été, toujours avec un temps partiel, avec des petites cotisations de retraite, etc. Et ce sont toutes ces femmes-là qui, passées 65-67 ans, se retrouvent avec une retraite désastreuse et ne pourront plus vivre. Et bien souvent, quand on est dans des métiers artisanaux ou commerciaux, on a aussi des gens, surtout dans l'artisanat, dans le bâtiment, dans tous ces métiers de manuels, des gens qui malheureusement vivent moins longtemps pour des raisons diverses, hein, pas seulement attachées à leur métier, mais aussi au fait qu'ils ont pris l'habitude de travailler dans toutes les situations, puisque leur salaire dépend de leur travail, et que finalement, ils se soignent souvent beaucoup moins bien que les autres, ils sont moins à l'écoute de leur corps, et finalement, ce sont des gens qui partent malheureusement plus tôt, laissant des femmes avec des revenus très 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 faibles.
Tu en parlais du stress, de la charge mentale, du fait de ne pas pouvoir profiter finalement au fur et à mesure autant qu'on le pourrait ou qu'on le voudrait.
Tout à fait. Alors il y a aussi, après on va parler aussi, là je parlais économie, on peut parler aussi qualité de vie.
Bien sûr.
Et là c'est tout autre chose encore. Voilà, hier j'ai fait venir un artisan à 7h du soir parce que j'avais un problème et qu'il fallait absolument changer mes serrures. J'ai eu sa femme au téléphone, évidemment, qui m'a dit « Bon, bah, je vais voir ça avec mon mari tout de suite, mais je vous l'envoie. » Bon, il y a des années qu'on travaille ensemble, elle nous connaît. Mais voilà, c'est cette vie de couple, il était rentré, bien non, je l'ai fait ressortir. Et je culpabilise quelquefois en faisant ce genre de choses, mais il n'y a pas, là, j'avais absolument besoin qu'il vienne. Mmh. Voilà, mais ça, cette vie, effectivement... n'est pas la même et la charge n'est pas la même, y compris pour son épouse, même si elle n'assure que les arrières.
On s'est rendu compte en préparant cette émission que finalement, la cause, entre guillemets, des femmes, en fait, c'était la cause des humains en général, mais que le contexte et nos habitudes de vie et nos traditions aussi font que les femmes sont particulièrement touchées sur chacune des problématiques qu'on a pu trouver. La première était assez générale, c'est juste déjà les femmes par rapport à l'emploi et en quoi un revenu de base pourrait fluidifier, assouplir. Alors on rappelle évidemment, parce que ça sera, c'est un peu l'implicite de toute cette émission, qu'un revenu de base ce n'est qu'un outil, c'est pas ça qui cling, apportera l'égalité salariale ou autre entre les femmes et les hommes. Mais en même temps, voilà, nous, on considère que ce serait une sérieuse brique apportée à ce soutien pour les femmes et pour les hommes, parce que je suis éminemment persuadée que si on va mieux, ils iront mieux aussi.
Et ben, du coup, je te propose une petite chanson pour illustrer.
C'est parti.
Alors, on va commencer avec une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Clémence en vacances ». Sans doute, vous connaissez ça.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange. On s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil. Un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison. La cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment. Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elle ne fait Clémence, comment en enfance, elle serait bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comment en enfance, se reposeraient enfin.
Hop, les Clémences, elle aurait bien aimé un revenu de base, je pense.
Ah oui. Imaginons, rêvons un peu. Non, parce que on parle d'égalité salariale. C'est vrai qu'il y a quand même voilà, des avancées qui ont été faites. Mais moi, j'ai vu quand même qu'il restait 26% en moyenne de décalage entre les salaires des hommes et les salaires des femmes en France aujourd'hui. Est-ce que tu peux développer, Corinne ?
Eh bien, il y a bientôt 60 ans que la loi sur l'égalité salariale est passée. Au bout de 60 ans, on a fait du chemin. Ça remonte. On n'était pas à 26%, loin de là. Je crois qu'on était à 40% quand ça a commencé. Mais à ce train-là, eh bien, on aura l'égalité salariale en 2100.
Bravo.
Voilà. Alors,
courage.
Courage, oui, nous allons y arriver. Nous allons y arriver.
Nous, peut-être pas, mais nos enfants.
Non, il faut encore
peut-être.
4 générations, c'est beaucoup. Donc, effectivement, il faudrait accélérer ce mouvement-là. Mais le revenu de base, qui n'empêche pas qu'il faut toujours viser l'égalité salariale, évidemment.
Bien sûr.
Mais le revenu de base, c'est plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est permettre à chacun de mener la vie qu'il veut mener et de faire ses choix au fur et à mesure de sa vie, sans avoir aucune notion économique à prendre en compte. Bien sûr, on peut dire si je suis médecin, ou enfin, encore les médecins ne sont pas les gens qui gagnent le plus d'argent, loin de là, mais enfin si j'ai un métier qui me permet de gagner bien ma vie, tant mieux, mais je peux aussi faire par choix un métier qui me permet de moins bien gagner ma vie et dont on a besoin, dont la société a besoin. Pourquoi est-ce que un métier serait dévalorisé par rapport à un autre ? Il y aura toujours des inégalités salariales, non pas entre hommes et femmes, j'espère que ça, on y viendra à cette égalité, mais entre travaux, quels qu'ils soient, au niveau de la société. Forcément, il y aura toujours. Mais le revenu de base fera que, normalement, il n'y aura plus de pauvres. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a 8,8 millions de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. 8,8 millions. C'est énorme. Mmh. C'est un huitième de notre société, même un septième, je crois. Bon. Alors, c'est grave, c'est très grave d'accepter qu'une société puisse être à deux vitesses selon que les gens sont nés riches ou pauvres, sont nés ce qu'on appelle plus ou moins intelligents, encore que cette notion m'échappe totalement, sont nés avec des capacités, avec des capacités physiques ou pas, avec l'exemple des gens, des grands sportifs qui gagnent des fortunes pendant que d'autres meurent de faim en les regardant. Et c'est pas un mot, mourir de faim. Hein. Il y a quand même une personne sur cinq en France qui ne peut pas faire 3 repas par jour. Une sur cinq, vous en voyez dans les rues à longueur de temps. Il y a un enfant sur cinq dont les parents n'ont pas les moyens de payer la cantine, et même avec toutes les possibilités qu'offrent les communes. Donc ce revenu de base, non seulement il est important, mais aujourd'hui il est devenu totalement essentiel. Sinon, on va être très très rapidement, et dans tous les pays du monde, des sociétés complètement à deux vitesses, des sociétés avec des riches très riches et avec des pauvres très pauvres. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, de recréer l'esclavage au XXIe siècle.
Et c'est d'autant plus frappant pour les femmes qui, voilà, on ne va pas citer toutes les études sociologiques qui viennent le prouver, hein, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, il y a plus de difficultés d'accès à l'emploi, surtout au CDI ou au temps plein, beaucoup de temps partiel subi avec des horaires complètement aberrants et invivables, des discriminations à l'embauche, évidemment, qui ne disent pas leur nom, et cette espèce de segmentation, de discrimination même incorporée par les femmes elles-mêmes, les petites filles dès leurs études, pour aller vers les métiers du care, qui sont bien moins rémunérés. Et puis la pandémie a montré, on les a applaudis, mais on ne les a pas revalorisés, à l'inverse des métiers du numérique ou les métiers scientifiques. Et puis ce fameux plafond de verre aussi, qui malgré des quotas, je pense notamment au conseil d'administration des grandes entreprises ou des grandes institutions, ou même en politique. Enfin, voilà. Donc il y a tout un contexte qui montre que cette pauvreté, elle est encore plus renforcée. Tu as parlé des retraités, mais aussi tout au long de la vie pour les femmes.
Oui, bien sûr, toutes les discriminations dont tu viens de parler, et oui. Alors le plafond de verre, c'est un sujet encore un petit peu différent parce qu'il arrive évidemment sur des gens qui sont déjà d'un certain niveau.
Oui, ça
veut dire que socialement, on est monté dans l'échelle sociale grâce à des études, grâce à des capacités, à des compétences qu'on a mises en place. Mais un beau jour, on s'aperçoit qu'on plafonne, c'est terminé. On n'a plus droit à monter hiérarchiquement. Parce qu'il faut quand même être un petit peu sérieux. On a laissé les femmes aller maintenant très très haut. On ne va quand même pas les laisser accéder aux 15% du plus haut de la hiérarchie, de l'échelle sociale. Ça, ce n'est pas possible. Les hommes n'y sont pas prêts actuellement. Alors quand je dis les hommes, évidemment qu'il y a beaucoup d'hommes qui y sont prêts, et heureusement. Et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on pourra faire changer la société. Mais il est incroyable de penser que même des femmes s'interdisent le passage tout en haut de cette échelle sociale. Mmh. En pensant que là, ce n'est plus pour elles. Là, c'est pour les hommes. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez de différent ? Vous faites des enfants ? Ben oui, vous faites des enfants. Eux aussi d'ailleurs. La seule différence, c'est que c'est vous qui les portez. À partir du moment où vous pensez que c'est un handicap, c'est terminé. On ne peut plus avancer socialement.
Eh bien, je vous propose une petite chanson pour illustrer ça. C'est La Mordue qui chante ça. Ça s'appelle « Je suis une femme ». Et c'est justement qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes au niveau de faire le mal, en quelque sorte.
Et on enchaînera avec le témoignage de Bérengère.
Je m'appelle Sabrina, cadre chez Paribas. Veste courte, jupe lisse et chemisier parfumé. Intérêt et placement, profit, investissement, bénéfice, actionnaire, je suis une pute en affaires. Ce que je ne dis pas, c'est que dans ce monde-là, pour gagner de l'ampleur, faut ranger sa pudeur. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être un femme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai comme des chiens. Je suis Marie Chantal, Miss Multinationale. Ensemble noir, haute couture, Louis Vuitton en chaussures. Chauffeur et limousine, diamant sur blanc, platine, belle assistante IP pour finir la journée. Ce que je ne dis pas, c'est que derrière tout ça, y a des enfants qui crèvent pour financer mes rêves. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai comme des chiens. Moi je m'appelle Michel, garde des seaux, des poubelles. Je travaille pour la justice, je nettoie tout, faut que ça glisse. Casque, bottes et matraque, mes hommes quand ils attaquent me procurent des frissons et ne posent pas de questions. Ce que je ne dis pas et que tout le monde voit, c'est que je m'enrichis et pour les pauvres, tant pis. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous me laissez faire un mandat, j'imiterai le petit Nicolas. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai comme des chiens. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai.
Donc bonjour, je m'appelle Bérengère, j'ai signé l'ICE pour expérimenter le revenu de base pour la raison suivante. Donc jeune ado, ma mère est partie pour du travail, donc je me suis retrouvée hébergée chez mon frère. Un frère qui était jeune à l'époque, un petit peu irresponsable, donc beaucoup de monde, beaucoup de bordel. Pour ma propre sécurité, j'ai demandé mon placement à l'ASE, qui a été accepté malgré mon approche de ma majorité. Pendant une année, j'ai été placée en foyer et ensuite j'ai pu bénéficier d'une aide régionale pour les études supérieures parce que je suis à la fac. Cependant, cette aide, le montant n'était pas suffisant pour vivre, payer un logement, se nourrir, les livres qui demandent un niveau de financement impressionnant, les études, tout simplement, les études supérieures, c'est un énorme coût. Donc, ça me permettait pas de pouvoir vivre, manger. Donc, j'ai dû arrêter mes études et j'ai fait le choix d'aller travailler. Donc, avec juste un petit bac en poche, on bosse en sidérurgie, notamment en fait, dans les usines qui recrutent en intérim, puisqu'on n'arrive pas à décrocher de CDI non plus. Physiquement, ben brisé, la seule petite minette parmi des hommes, on porte sur une journée étalée dans la journée, on porte une tonne. Forcément, ça laisse des traces physiques, des énormes traces physiques que j'ai payées et que je continue à payer aujourd'hui, malgré que ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Ensuite, j'ai fait le choix de reprendre mes études en alternance pour dire de générer un salaire. Et surprise, mon père est venu, il avait disparu, vivait dans une compagnie Emmaüs et a décidé de réintégrer le circuit familial. Donc je l'ai eu à charge avec un petit salaire de 700 euros. Donc merci les Restos du Cœur, merci l'aide européenne à l'alimentaire, merci à toutes les aides, parce que sinon c'était pas un repas par jour qu'on faisait, c'était deux par semaine, pas plus. Cette catastrophe-là, ça a généré une interdiction bancaire, hein, et une dépendance à un petit ami violent, forcément, puisque lui aussi aidait à manger, aidait à payer les factures. Si j'ai pas eu de coupure d'eau, c'est grâce au petit ami violent. Donc on se sent obligé de rester. C'est très compliqué de partir dans ce genre de conditions. Et puis oui quoi, après enfant, donc mère célibataire, un enfant, deux enfants, perte d'emploi, magnifique, hein, puisque la vie a été un petit peu plus douce à certains moments malgré tout, hein. Et oui quoi, donc pas de pension alimentaire des pères, puisque père violent, on ne saisit pas les huissiers ou autres recours qu'on peut avoir pour l'application de la sentence faite par le JAF, hein, ce qui génère des difficultés avec la perte d'emploi, clairement besoin d'un coup de main pour vivre. Hein. Clairement, actuellement, il me reste 300 euros après avoir payé toutes les factures pour nourrir deux enfants, 6 et 9 ans. Ça demande énormément de ressources, énormément d'intelligence pour pouvoir gérer aussi bien qu'on peut. Les habiller, il faut leur ouvrir l'esprit, il y a la culture, il y a le sport. Ça veut dire se priver. Personnellement, je fais qu'un repas par jour. Hein. Et encore, des fois, c'est une fois tous les deux jours. Mais nos enfants le méritent bien. La reprise d'études, clairement, après la perte d'emploi, je me dis, ouais, Bérangère, il faut plus que tu arrives à ça. Donc, reprends tes études, valide tes diplômes supérieurs, hein, mais qui est aussi une mise en danger énorme, puisque le chômage, on a le droit à 2 ans. Au-delà de 2 ans, il faut se débrouiller. Faire une reconversion professionnelle et rentrer dans des études supérieures, hein, dans le cadre dans lequel je vis, donc mère célibataire de 2 enfants à temps plein. À charge, je les ai tout le temps avec moi, ils ont pas, y a pas de garde alternée. Ce qui génère, ouais, des énormes inquiétudes. Autre idée, quoi, un projet génial d'ouverture d'un café familial, hein, bio, local, éthique, avec des assos, avec des interventions de tout ce que moi j'ai manqué en tant que jeune maman et encore aujourd'hui, juste avoir un endroit où parler, où les accueils d'assos non déclarés, avoir un terrain pour se retrouver. Et ce projet-là peut pas voir le jour, puisque je peux pas mettre en danger ma famille plus qu'elle ne l'est, puisque sinon ça veut dire ne plus avoir de toit. Et de toute façon, les banques m'empêcheraient, me permettraient pas d'obtenir un prêt pour monter ce genre de projet. Donc oui, quoi, le revenu de base, il me permettrait quoi si je remonte dans le fil de ma vie. Étant jeune, j'aurais pu continuer mes études de suite logique, hein, donc ce qui aurait été essentiel et ça aurait évité toutes ces difficultés. J'aurais pas eu cette dépendance à un partenaire violent. L'accueil de mon père, par exemple, ce serait fait avec beaucoup plus de douceur. Devoir courir dans chaque don alimentaire, c'est compliqué humainement de le faire, hein. De l'interdiction bancaire, les conséquences que ça a, c'est pareil, ça, c'est des choses qui n'auraient pas eu lieu. Les études, même aujourd'hui, si je reprends qu'une partie, aujourd'hui, par exemple, je pourrais finir mes 3 ans de DCG tranquille, paisiblement. Je me dirais pas, il faut absolument que je retrouve un emploi pour la deuxième année, parce que sinon, de toute façon, j'ai plus de chômage et le RSA, déjà actuellement, avec ce que je touche, il me reste que 300. Si je touche du RSA, il me reste quoi? Il me reste 0 € pour nourrir mes enfants. Donc, ça veut dire un placement de mes enfants. Je suis pas d'accord, quoi. Je suis apte à les élever, c'est juste les finances qui manquent. Donc voilà, les points qui sont mis en évidence.
Eh bien, merci à Bérangère. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus 106,6 avec Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base tous les premiers vendredis du mois matin à 8h. On est parti. Virginie, je t'en prie.
Donc, on venait avec Corinne de brosser un peu la thématique des femmes et de l'emploi, alors qui touche, qui croise évidemment, qui est renforcée encore plus par les inégalités sociales déjà, mais qui sont particulières quand on est une femme. Et grâce au témoignage de Bérangère, dont je remercie la confiance et l'authenticité ici, en fait, on aborde d'autres thématiques particulières aussi. Alors, pareil, en général, le couple. Donc, est-ce qu'on peut choisir son partenaire et rester, son ou sa partenaire, et rester avec lui ou elle, vraiment par choix, par affection, même peut-être par amour, soyons fous, hein, mariage d'amour, ça pourrait presque être à la mode. Ou est-ce que, comme ça arrive très souvent, même si c'est peu dit, on fait aussi des choix de compagne de vie ou de compagnon de vie par rapport à la sécurité financière. Et c'est d'autant plus vrai quand on aborde la question des femmes et des violences.
Oui, bien sûr. Le couple, ça peut être un endroit merveilleux quand ça fonctionne bien, quand il y a beaucoup d'amour, quand il y a une complicité, quand il y a des charges qui sont partagées, et charges psychologiques, mais aussi charges sur le plan du travail à la maison. On sait bien que beaucoup d'hommes croient participer parce qu'ils sortent les poubelles ou parce qu'ils ont fait faire les devoirs une fois par semaine à leurs enfants. On s'est aperçu avec le confinement, et là il faut rendre hommage à la Maison des Femmes qui a organisé le 25 novembre, le jour de la journée des violences faites aux femmes, une très très belle conférence par visioconférence, mais avec 150 personnes présentes, et sur justement ce qu'a amené le confinement pour toutes ces femmes. Toutes les femmes en général. Et on s'est aperçu que au niveau de la violence, par exemple, alors d'abord pour en finir, pardon, avec le travail à la maison, elles se sont aperçues, ces femmes qui télétravaillaient, ce qui n'était pas le cas d'habitude, avec à côté un mari qui télétravaillait aussi, que finalement, le mari, contrairement à ce que souvent il disait, ne travaillait pas plus qu'elle. À partir du moment où il avait fini son travail en télétravail, est-ce qu'il allait se mettre à aider dans la maison, à faire le repas, à faire la vaisselle, à s'occuper des devoirs, à s'occuper de faire jouer les enfants, à s'occuper de donner le bain aux enfants? Eh bien non. Elles se sont aperçues qu'effectivement, même dans cette situation où on est tous les deux à la maison, la charge était beaucoup plus sur leurs épaules à elles. Et là, il y a une inégalité flagrante, quel que soit le milieu social. Et puis, donc ce couple, ça peut être, et Bérangère l'a très bien dit, un couple dans lequel il y a de la violence. Cette violence, pendant le confinement, elle a été modifiée, c'est-à-dire que les femmes ont été beaucoup plus, bien sûr, à la maison, avec le mari violent, et on s'est dit, ça va faire exploser les féminicides. Non, ça n'a pas fait exploser les féminicides, bien au contraire. On est actuellement aux 2/3 des femmes décédées sous les coups du conjoint ou de son compagnon violent dans l'année 2020 par rapport à l'année 2019, qui était une année où on en avait eu énormément. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le féminicide intervient quand la femme échappe au couple. Tant que la femme reste dans cette violence, bien souvent, il n'y a pas le coup de trop. Par contre, on les tue quand elles veulent sortir de cette violence, sortir de ce couple violent. Il y a eu des choses très positives aussi vis-à-vis du couple, notamment les voisins qui, en étant à la maison, ont entendu les violences chez leurs voisins et donc ont appelé des secours. Donc voilà, il y a toute une organisation sociale qui s'est faite différemment. Mais cette violence, elle veut y échapper, Bérangère. Bien entendu, qui veut rester dans un couple violent ? Mais immédiatement, avec ses deux enfants à charge, elle se dit qu'elle ne pourra plus faire face. Si elle avait eu un revenu de base, il est évident qu'elle pouvait partir avec ses deux enfants sous le bras. Elle pouvait les faire vivre, elle pouvait leur donner à manger. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était lui qui payait les factures, elle le dit très bien, et qui leur permettait de manger. Que faire ? Partir dans la rue ? Alors, on a ici à Villeneuve-d'Ascq une merveilleuse association qui s'appelle l'association Louise Michel et qui prend en charge les femmes qui subissent des violences. Ça, il faut le dire aussi. Et à la Maison des Femmes, on a d'autres adresses à vous donner sur les autres villes du Nord. Donc, il y a ça. Il y a cette possibilité de partir uniquement si on a des moyens financiers. Sinon, on reste dans une violence qui peut être quelquefois extrême. Donc, c'est très important quand même à savoir. Alors après, on s'en va. La femme ose partir, même si elle n'a pas le revenu de base actuellement. Elle part. Que va-t-elle faire ? Effectivement, elle va créer souvent une famille monoparentale. Parce que quand on a des enfants, il est très difficile de trouver un nouveau compagnon qui va accepter de prendre en charge et de vivre quotidiennement avec des enfants qui ne sont pas de lui. On se trouve avec 13% des enfants de 13 ans, facile à retenir, dans une famille monoparentale. C'est énorme. Famille monoparentale, ça veut dire 85% des femmes chefs de famille. Il n'y a que 15% d'hommes qui sont à la tête d'une famille monoparentale. Alors, cette famille monoparentale, comment va-t-elle vivre ? Eh bien, difficilement, parce que, évidemment, il n'y a plus la possibilité de dire bah, « toi, tu as tel horaire, moi, j'ai tel autre, toi, tu vas chercher les enfants » ou tu... Non, il faut que tout le temps, la femme, dans 85% des cas, soit présente auprès de ses enfants. Et on sait qu'elle va devoir les faire vivre avec un salaire qui sera beaucoup moindre, puisqu'on a parlé tout à l'heure des inégalités salariales, que dans les familles monoparentales tenues par un homme. Donc elles ne vont pas pouvoir faire appel à une babysitter. Elles ne vont pas, elles vont juste pouvoir soit laisser les enfants seuls, malheureusement, très tôt. On a des enfants qui se débrouillent à 6-7 ans parce que maman est partie travailler, soit faire appel à une solidarité de voisins, de familles, etc. Donc ce sont des femmes qui ont une charge épouvantable au niveau psychologique, au niveau matériel, au niveau financier, et ça crée des familles qui effectivement vont être un peu en porte-à-faux et des enfants qui ne vont pas réussir à grandir normalement dans une tranquillité qui va leur permettre de se construire et de devenir des adultes de demain. J'allais dire zen, à l'aise, pouvant affronter la vie.
Malgré, effectivement, on l'entend quand Bérangère dit « les enfants le valent bien », c'est-à-dire que oui, elle se prive même de manger, mais ça a du sens pour elle, et elle passe au-dessus, et elle continue, et elle ose même envisager des projets très ambitieux comme d'entreprendre un café familial, etc. Donc il y a vraiment un surinvestissement, un effacement de soi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, bah, après, ça peut avoir un coût en termes de santé, de longévité de vie, etc. Et pour ces enfants, et alors j'aimerais bien qu'on les aborde un petit peu, puisque c'est un peu le fil rouge et la raison de tant d'efforts et, on peut le dire, d'abnégation, finalement, de beaucoup de femmes, complètement invisibles dans la société. D'ailleurs, c'est intéressant à souligner quand même, qu'un enfant qui grandirait avec des parents et même tout le village, le fameux village qui est nécessaire pour éduquer un enfant, si ce village, tous ces adultes sont sécurisés dans leur revenu de base, on le voit dans les expérimentations, les enfants peuvent grandir de façon beaucoup plus sereine, alors de façon matérielle déjà, avoir un logement, suffisamment de nourriture, comme Bérangère le dit, un accès à la culture, au sport, etc. Mais aussi psychologiquement, parce qu'ils seraient, dès leur naissance, et on leur expliquerait évidemment au fur et à mesure de leur autonomie, inclus dans une société, parce que reconnus par un revenu de base individuel. Donc tu arrives, tu es humain, tu existes, welcome, bienvenue parmi nous, on te reconnaît avec un droit à la subsistance. Donc moi je suis persuadée en tant que maman et que professeur que ça assouplirait, ça aplainirait beaucoup de tensions, de stress, dès l'enfance, finalement, où en plus le cerveau de l'enfant est particulièrement fragile au stress. Et on verrait aussi, un peu comme dans les expérimentations, on voit que ce soit dans des pays dits émergents, voilà, je mets plein de guillemets à ces étiquettes pour des pays plus au sud, ou que ce soit dans des expérimentations qui ont lieu au Canada, aux États-Unis ou en Europe, on voit que, alors sur un plan général, mais aussi sur un plan particulier et féminin, il y a beaucoup plus de chances qui sont données aux enfants. Alors, les petites filles sont mieux nourries, elles ont un poids supérieur, elles bénéficient d'un logement, elles bénéficient... Alors, souvent, c'est les mamans qui reçoivent l'argent des enfants et donc elles vont l'investir. Je ne dis pas que les papas ne le feraient pas, c'est un constat que je fais, hein. Mais elles investissent effectivement dans l'éducation, dans la nourriture, dans les vêtements, etc. Et on voit aussi, alors deux autres points qu'on peut extraire de ces expérimentations, c'est un premier point sur la baisse des violences, que ce soit au Canada, notamment j'ai un chiffre de moins 8,5% d'entrée aux urgences, et notamment par une baisse des violences intrafamiliales dues à l'alcool. Il y a aussi une baisse de consommation d'alcool, de drogue dans les familles. Et on voit aussi, le troisième point, c'est la hausse de l'entrepreneuriat, surtout en termes de
auto ou mini-entrepreneuriat. C'est-à-dire que des femmes, je pense à une expérimentation en Namibie, assez révélatrice de ça, plutôt que d'attendre alors soit un compagnon qui, ou un père de famille qui puisse subvenir suffisamment aux besoins de la famille, ou alors un patron, on a cette double soumission finalement à la libération par le travail cause toujours, un patron qui viendrait rémunérer un emploi suffisamment long et suffisamment payé pour pouvoir subvenir elle-même, etc., bah plutôt que d'attendre cette double autorisation, dans le sens de rendre auteur de sa vie, bah non, elles peuvent, avec un revenu de base, revenir vers elles, dire voilà, j'ai autant de temps parce que je fais des choix peut-être de famille ou d'autres, peut-être avec les parents malades, etc. Donc je fais des choix, j'ai autant de temps, j'ai telle compétence, et ben je lance mon activité. Et on a vu dans l'expérimentation en Namibie que ça fait exploser l'économie de 300%. C'est assez extraordinaire. Donc là, je parle autant en termes de libération individuelle et avec la cellule familiale dont on vient de parler, qu'en termes systémiques de macroéconomie, là, sur tout un village de 1000 habitants. Mais voilà, je vous renvoie sur le site revenudebase.info ou sur la première page, vous aurez la carte des expérimentations pour voilà, pouvoir redécouvrir tout ça.
Eh ben, je vous propose une petite chanson, par exemple Agnès Bill avec La complainte de la femme parfaite. C'est parti.
C'est moi ?
L'enfant dormira très vite. L'enfant dormira bientôt. Dors mon poussin, dors mon bébé. Ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable ? Allez demain, faut être en forme. Maman travaille, elle se défonce. Tu sais la nuit, y en a qui dorment. Fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer. Faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman a sommeil et qui me casse pas les oreilles. Tu sais, la nuit, c'est pas prudent. Faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la troisième fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non, maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête? Moi, à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'a dit la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'antiféministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. Pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics. C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau. Relation mère-fille, père-fille. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau. Crise de nerfs, maman limite. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant dormira bien. Mon ange, c'est mon portrait.
C'est toi qui dors.
Je ne veux plus. Je ne veux plus des conditions de travail subies, d'inégalité salariale, de misère qui pousse à la prostitution, ni précarité, ni peur du lendemain. Ce que j'aimerais, négocier mon temps de travail, lancer ma propre entreprise, me former quand j'en ai besoin, équilibrer ma vie professionnelle et familiale, la reconnaissance des tâches ménagères, éducatives, bénévoles.
Je te remercie beaucoup, Max, d'avoir lu ce témoignage. En fait, c'est une affiche que vous retrouverez aussi sur revenudebase.info. Et en fait, c'est une femme qui est sur l'illustration avec une enfant. Et en t'écoutant, on se rend compte à quel point, finalement, les problématiques les problématiques des femmes liées aux revenus de base, en fait, sont des problématiques aussi des hommes. Alors, je te remercie de prêter ta voix aussi, parce que je connais ton soutien à la cause féministe, ou plus précisément, ton envie de tendre vers une égalité femmes-hommes au quotidien et dans, en politique, au sens large du terme. Corinne, tu nous parlais de culpabilité.
Oui, parce que je reviens sur ce que tu as dit. On a parlé des enfants qui vivent dans des familles en grande difficulté financière et les enfants culpabilisent, comme ils culpabilisent quand les parents divorcent, se séparent. Ils pensent toujours que c'est de leur faute ce qui arrive. Et quand ils n'ont pas assez à manger, quand les parents ne s'en sortent pas, ils ont une part de culpabilité qui se développe en eux. Et je pense qu'on ne fait pas des adultes responsables et égaux avec cette culpabilité, j'allais dire presque originelle. Et puis, il y a la culpabilité de la femme aussi. La femme qui n'arrive pas à faire vivre la famille, quelquefois avec le petit salaire de son mari, n'en ayant pas elle-même ou en ayant elle-même un petit également. Et cette culpabilité de ne pas s'en sortir sur laquelle on appuie. On appuie sans cesse là-dessus. À chaque fois qu'on va faire des démarches vis-à-vis du RSA, vis-à-vis du chômage, des indemnités de chômage, etc., on est dans une société qui culpabilise le pauvre. Et je pense que le revenu de base est absolument indispensable pour enlever cette culpabilité. Une culpabilité qui fait société aujourd'hui pour toute une grande partie des Français comme des gens du monde entier.
Et encore plus pour les femmes à qui on attribue des compétences particulières d'empathie, de soins, etc.
Tout à fait. Elles ont vu qu'elles mettent les enfants au monde, parce que ça vient de là, elles ont toujours à tout assurer. Et ce sont elles qui ont la responsabilité de la société, finalement. Mais elles n'en ont aucun des leviers. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le plafond de verre, etc. Je voulais aussi, parce que tu as parlé des femmes entrepreneuses et du fait qu'elles puissent faire changer la société dans certains pays, je suis allée l'année dernière en République démocratique du Congo où j'ai le comité Nord des Mères pour la Paix a un programme là-bas de femmes et d'orphelins victimes de violences ou issues de la violence. Et j'ai rencontré une association dont le travail est uniquement d'aller dans les villages et d'expliquer aux hommes que s'ils laissent les femmes entreprendre avec eux ou entreprendre tout court et qu'ils leur viennent en aide, la société change. Et il a des résultats. C'est-à-dire qu'au début, quand il va dans le village, il a 25 femmes qui viennent écouter ce qu'il a à dire, etc., les épauler pour qu'elles puissent entreprendre. Et petit à petit, eh bien, quand il revient le mois d'après, les hommes arrivent. Et il arrive non seulement à créer des familles qui s'en sortent financièrement parce qu'elles entreprennent ensemble, hommes plus femmes, avec les capacités, les compétences de chacun et surtout leur ensemble, et encore mieux, à faire en sorte que les couples et les familles fonctionnent. C'est-à-dire qu'une famille dans laquelle les gens travaillent tous les deux, sont heureux de travailler et apportent économiquement de quoi vivre à leur famille, eh bien, sont des familles qui restent soudées. Qui restent soudés longtemps et qui s'entendent bien et qui sont heureux de vivre cette famille.
Alors Corinne, j'ai une question qui me vient parce que j'ai animé un certain nombre de débats sur le revenu de base en général et j'ai régulièrement eu des levées de boucliers de personnes féministes et qui... alors moi, ce que j'en ai analysé, c'est qu'il y avait une espèce de mélange un peu bizarre entre le revenu de base qui touche tout le monde, qui est voilà, inconditionnel, etc., et les craintes tournées autour d'un salaire maternel qui est plutôt connoté de droite, avec effectivement voilà, un a priori un peu conservateur sur le rôle de la femme dans la société en général. Et cette espèce de méfiance à dire que les femmes, si on leur donne suffisamment pour vivre a priori, de toute activité rémunérée ou pas, eh ben, elle risquerait de l'utiliser en restant, en faisant le choix de rester à la maison.
Mais pourquoi faut-il absolument imposer un choix? Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Le salaire maternel, je ne suis absolument pas pour, hein, mais effectivement, on dit... une femme qui va avoir une base salariale, donc ça peut être le revenu de base, ça peut être le salaire maternel... Évidemment, le revenu de base est beaucoup plus intéressant, hein, c'est une évidence. Mais on pense toujours que ces femmes vont pouvoir choisir de rester chez elles et que donc c'est une mauvaise chose pour beaucoup de mouvements féministes. Ben non, c'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai une fille qui a décidé d'avoir 5 enfants et qui est à la maison. Bon, et puis quand elle voudra plus être à la maison, elle reprendra un travail. On peut justement le choix dire, elles vont forcément choisir de rester à la maison. Non, elles vont faire un choix, mais elles le font déjà, elles font un choix. La seule différence, c'est que le choix, il se fait dans le confort d'un minimum vital qui leur est versé, parce que on parle quand même d'un revenu de base qui ne fera pas 5000 euros. Donc on est quand même dans un revenu de base basique, même s'il doit, je crois, dépasser d'à peu près 20% le SMIC dans ce qu'on
avait. On est entre 500 et 1000 euros pour les versions à court terme en France.
500 et 1000 euros, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc l'idée, c'est pas de dire ça va leur permettre de choisir de rester à la maison. Eh bien, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas aussi choisir de rester à la maison? Pourquoi le modèle est-il unique? Pourquoi, pour être une femme responsable et indépendante, on doit forcément travailler? Après, c'est un équilibre de famille, un équilibre de couple, un équilibre de moments. Il y a des moments où on préférera faire une chose, des moments... mais il y a aussi des hommes qui décident d'arrêter de travailler pendant 2 ans ou 3 ans parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils sont dans un rythme qui ne leur convient pas, qu'ils ont envie de refaire une formation, de se ressourcer, de calmer le jeu, comme on dit. Hein. Mais c'est pas... Alors, imaginez qu'une femme, de toute façon, fera les mauvais choix, parce que c'est ça que ça veut dire. Non, une femme est capable de gérer son budget, elle est capable d'élever ses enfants, elle est capable de tout, c'est un être humain comme un autre. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme pour moi.
Mais je te remercie parce que ça me permet de clarifier un petit peu mon discours. Et je vois aussi, j'entends ce que tu dis par rapport plus généralement à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est un des risques psychosociaux reconnus. Quoi. Et que donner un revenu qui ne soit pas que aux femmes, justement, on ne le donne pas que aux femmes, on le donne à tout le monde. On ne le donne pas que aux pauvres, on le donne à tout le monde. Et que cette universalité, justement, permet d'imaginer un phénomène émergent, comme on appelle, hein, ça serait un petit changement dans la société, mais qui aurait des implications qu'on ne peut même pas concrètement imaginer, sauf à partir de notre vécu, des expérimentations et de notre réflexion. Mais on peut projeter qu'en tout cas, ce serait une plus grande avancée pour les femmes que pour les hommes, encore, ce revenu de base, et que ce serait de toute façon un cadeau pour tous.
Bien sûr. Je voulais d'ailleurs, quand tu dis on n'envisage pas toutes les répercussions que ça peut avoir, Bérangère tout à l'heure nous a présenté un témoignage extraordinaire et à un moment, elle n'a même pas imaginé ce que pouvait être sa vie avec un revenu de base puisqu'elle dit « j'aurais pu accueillir mon père dans de meilleures conditions ». Non, elle n'aurait peut-être même pas eu à accueillir son père, ou en tout cas, elle l'aurait accueilli juste parce qu'elle aurait eu envie de partager ce moment de vie avec lui, mais il aurait lui-même eu un revenu de base. Donc, il n'aurait pas pesé sur l'économie de son couple ou de sa famille ou d'elle et de ses enfants.
Il aurait pu porter sa propre autonomie la responsabilité de cette autonomie.
Tout à fait. Mais donc, même en parlant du revenu de base, elle n'a pas réussi à envisager la totalité des répercussions sur ce qu'elle a vécu. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est tellement formaté au fait de devoir se battre et de devoir galérer, parce que finalement, on est tous dans nos galères. Enfin, je répète, 40% des Français ont passé à un moment en état de pauvreté extrême. 40%, c'est énorme. On ne peut pas imaginer que tous ces gens-là aient été fautifs de quoi que ce soit. Ils ont juste été fautifs d'être pauvres.
Donc là, je lance un appel à tous les féministes, à tous ceux qui aiment les femmes, qu'elles soient femmes ou qu'elles soient hommes d'ailleurs, on les inclut généreusement dans notre communauté pour agir, pour faire évoluer les mentalités sur l'idée du revenu de base. Et pourquoi pas, parce que dès maintenant, vous pouvez faire un tout petit geste qui est de signer l'initiative citoyenne européenne dont on a parlé au tout début, alors qui... On l'a dit déjà la dernière fois, permet de demander officiellement au Parlement européen des expérimentations de revenus de base en Europe. Donc ça, c'est le projet politique au niveau européen. Mais au quotidien, de voir monter ces fameuses signatures qui montrent notre soutien à l'idée. Et je suis vraiment persuadée que ce soit pour les femmes et pour les enfants qui sont les futures femmes et les futurs hommes de notre société, qu'avec un revenu de base, on pourra gagner en sécurité globale, en paix
et du coup en liberté, et que moi en tant que prof, j'imagine bien que plutôt que d'apprendre à mes élèves à se vendre à une entreprise, eh ben on développera leurs compétences, plus d'autonomie, plus de coopération, qu'ils apprennent à mieux se connaître, à développer leurs compétences et leur goût pour qu'ils fassent des choix éclairés, alors par rapport à eux et par rapport aux besoins du collectif, bien sûr, hein, voilà, dans une notion d'interdépendance qui me semble vraiment un nouveau phare.
Un collectif ne peut pas être fait d'individus mal à l'aise. Et on parle d'une société, on ne peut pas créer une société qui soit une société de douceur, de paix, sans cet esprit, effectivement, de faire en sorte que chacun... Pas du tout pour qu'il soit individualiste, au contraire. Pour pouvoir se tourner vers les autres, il faut déjà qu'on ait la possibilité d'exister soi-même. Et si on nous empêche d'exister, si on est tout le temps à devoir imaginer un avenir de 2 jours maximum, parce qu'on ne peut pas voir plus loin, on ne pourra pas se tourner vers les autres et on n'aura pas une société.
Et en même temps, gardons en tête aussi qu'un revenu de base, ce n'est qu'un outil. C'est une somme d'argent. Alors, ça ne dédouane pas l'État, etc., de continuer, tu parlais d'associations, etc., d'accompagner, d'accompagner les douleurs, les souffrances, etc. Mais on a aussi chacune et chacun, par répercussion, un travail à faire, on l'a vu, sur nos propres représentations, nos propres conditionnements, à traquer en soi tous ces moments où on se sous-estime, où spontanément on porte, où on culpabilise, etc.
Eh bien, on pourrait continuer ce débat pendant des heures et des heures. Par exemple, on pourra continuer tout à l'heure sur Épile-poil, la compile à 17h. En attendant, eh bien, tout essentiel, c'est fini pour ce matin et pour ce mois-ci. Mais merci beaucoup d'avoir animé avec nous cette partie consacrée aux femmes. On va se quitter avec une toute dernière chanson. Ah oui, tu avais un truc à dire.
Mais oui, rendez-vous évidemment le mois prochain, le premier vendredi de chaque mois de 8 à 9, et avec une autre thématique qui est la transition écologique. Donc comment le revenu de base faciliterait, mettrait un peu d'huile dans cette transition écologique qui nous fait tous rêver, mais qu'on ne sait pas par quelle boule prendre. Donc si vous avez des témoignages ou envie de participer à l'émission, n'hésitez pas, écrivez-nous.
Voilà, et on se quitte donc avec une toute dernière chanson, une chanson d'Anne Sylvestre, mais cette fois-ci interprétée par le groupe Évasion, que je vous recommande chaudement, vu qu'ils ont repris tout un album d'Anne Sylvestre. Allez, c'est parti, Frangine.
Merci Max.
C'est à l'école déjà, confie de nous des concurrentes. On se regarde des chiens et chats, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangile, ça nous aurait gagné du temps. Au coup à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pioles et les ballons. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutons du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes. Qu'on nous érigea en barrière, on se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon, et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que falaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Mais sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regarder.
voir qu'on était toutes assez belles. Même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers. On nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception. Chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait, frangine, on n'aurait pas perdu son temps. J'unissant nos mots, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je ferait changer les choses. Allez, allez, on ose, il est grand temps.